EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue à vous sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Et cette semaine, juste une semaine fantastique. C'est la semaine où on va penser à tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Il est important dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus, de penser, évaluer avant d'évoluer. Il y a donc dans cette marche et cette démarche à grandir ensemble, des choses que je suis obligé de vous rappeler chaque fois. Il est important de s'évaluer, d'évaluer ce que l'on fait avant d'évoluer, de regarder d'où l'on vient, de faire un bilan avant de prendre encore d'autres initiatives dans la direction qui nous attend. On va passer toute cette semaine à grandir dans notre façon de nous évaluer. On reconnaît quelqu'un de mature et qui va aller loin dans la vie, dans sa capacité à prendre du temps à part pour réfléchir sur ce qu'il a fait, c'est ce qu'il doit faire, et c'est ce qu'il fera demain. Et si l'on veut vraiment grandir, il faut qu'on touche à cette question. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de faire un bilan avec le Saint-Esprit. Comment poser la boussole à son endroit. Il ne s'agit pas de juste faire le bilan. Non, il s'agit de le faire avec le Saint-Esprit. Parce que je vous assure, si vous essayez de faire ça vous-même sur vous, ça ne donne pas toujours les résultats réellement escomptés. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vous le savez, je l'ai dit dès les premiers jours où je commençais cette émission, que quand j'étais jeune, j'étais scout. Et la boussole est vraiment un instrument qui est très, très important parce que dans le scoutisme, à l'époque, on nous apprenait comment vivre dans la nature, comment se débrouiller lorsqu'on est au milieu de nulle part. Et on utilise des outils comme ça. Boussole, pas téléphone avec boussole dedans. Au cas où tu n'as plus de charge ou tu n'as plus de connexion Internet. Non, boussole, vraiment. Et quand on devait regarder la boussole, elle indiquait tout le temps le nord. Et on ne devait pas seulement savoir c'est quoi le nord, on doit savoir que signifie être en direction du nord. Pour que lorsque notre carte est devant nous, on sache que si le nord est dans cette direction, voilà comment il faut lire la carte. Lorsque la boussole est placée, la carte a automatiquement un sens. Nous, on a automatiquement une direction. Et donc si on veut faire un bilan, il nous faut une boussole. Il faut un repère sur le nord, qu'on sache où on est censé aller. Les restes de choses doivent prendre sens à travers d'un indicateur principal. Il faudrait une norme pour qu'on puisse évaluer. En entreprise, des fois, on a des audits. Si on doit vous auditer, il faudrait qu'il y ait eu des procédures. Il faudrait qu'il y ait eu des normes, des règles que l'on va venir vérifier si elles ont été respecter. Lorsqu'on veut évaluer ou faire un bilan, il est important que l'Esprit de Dieu nous rappelle et fasse son œuvre des normes. Qu'est-ce qu'on était tenté de faire? On faisait quoi pour qu'on puisse évaluer ça maintenant? Comment on sait si ça marche ou si ça n'a pas marché? On faisait quoi à la base? Et le Saint-Esprit de Dieu est celui qui détient la pensée du cœur de Dieu, qui nous avait communiqué jusqu'ici et qui peut nous guider justement à bien faire cette évaluation. Mais puisqu'on parle de bilan, laissez-moi poser des vraies bases pour qu'on puisse dire, mais est-ce que là, tu ne fais pas faire une chose mondaine? Depuis quand un enfant de Dieu fait un bilan? Le bilan, peut-être le mot bilan, vous ne l'avez pas. Peut-être le mot évaluation, vous ne l'avez pas. Mais vous verrez que c'est très biblique et c'est fortement recommandé par notre maître Jésus-Christ. Alors, premier point, le bilan est une pratique biblique. Le bilan est une pratique biblique, mes amis. Ce n'est pas seulement une pratique humaine pour des contextes non spirituels. Non, non, non. On est dans les choses de Dieu, pasteur. On parle de l'action de l'Esprit. Comment vous pouvez parler des bilans? Le bilan est une pratique biblique. Ce n'est pas une tentative de gérer sa foi comme une entreprise ou de gérer l'Église comme dans le monde. Le bilan est une pratique biblique. Se mettre à l'épreuve vise l'authenticité, pas la honte. Quand on se met à l'épreuve, Quand on s'évalue sur ce qu'on est en train de faire, on ne tente pas de simuler. On tente plutôt d'être en quête de l'authenticité. La phrase est bien là, j'ai bien aimé que vous puissiez la voir. Se mettre à l'épreuve vise l'authenticité. Se mettre à l'épreuve vise l'authenticité, non pas la honte. Quand on s'arrête un moment et on s'éprouve soi-même, ce n'est pas pour qu'on se dise « Ah, j'ai vraiment rien fait dans la vie, vraiment, ah, moi qui rêvais pouvoir, mais ah, ça n'a pas... » On n'est pas là pour se frapper soi-même et se auto-flageller. Mais on est là pour se rassurer que les choses qui devraient être faites ont été faites telles qu'elles devaient être faites et le but est resté le même et il a été atteint. Le bilan est une pratique biblique. Lamentation, chapitre 3, verset 40, il est écrit « Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. » Vous voyez ça ?« Recherchons nos voies, sondons et en faisant quoi ? Après cela, on fait quoi ? On retourne à l'Éternel. » Mais, mes amis, ça, ce n'est pas Dieu qui est censé vous évaluer, ce n'est pas Dieu qui est censé vous sonder, ce n'est pas Dieu qui est censé vous ramener à lui. Ça, c'est une tension qu'il y a tout le temps dans la Bible et qu'un chrétien et vous, frères et sœurs, disciples, avec ces nombres de temps qu'on a passé ensemble, c'est une chose que vous devez comprendre tout de suite. La Bible exprime toujours cette tension. J'appelle ça une tension. Parce que pour un même concept, la Bible montre que Dieu doit faire sa part exactement pareil. C'est-à-dire, ici, on parle de, il dit, recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Vous verrez que la Bible parle encore et le psalmiste prie en disant, Seigneur, sonde-moi. Vous verrez encore, Dieu dit, j'ai ramené leur cœur à moi. Finalement, qui sonde qui? On se sonde soi-même, c'est Dieu qui nous sonde, c'est Dieu qui ramène. Vous aurez tout le temps ça, pour un même concept, une même réalité. Il y a l'homme qui doit le faire, et il y a aussi Dieu qui doit le faire. Voici comment il faut raisonner cela. Dieu ne fait pas 50%, l'homme ne fait pas 50%, Dieu ne fait pas 50% pour qu'on associe les deux. Non. L'homme fait son 100%, et Dieu fait aussi son 100%, c'est-à-dire chacun a une pleine responsabilité qu'il doit à 100% accomplir. Lorsque c'est le temps pour l'homme de se sonder lui-même, de s'évaluer, de chercher son cœur, il ne peut pas dire « Ah, ça Seigneur que Dieu lui-même va me sonder et lui-même va voir ». Non, il ne s'agit pas que Dieu voie ce qu'il y a dans ton cœur, il voit ça permanemment. Ce moment-là, c'est le moment où toi-même, tu dois regarder ce qu'il y a dans ton cœur. Et la Bible conseille. La Bible nous parle ici du fait de se sonder, de voir. Et qu'est-ce que ça doit donner comme résultat final? Ça nous pousse à retourner à l'Éternel. Celui qui passe de temps de s'évaluer finit toujours par garder une relation de proximité avec Dieu. Votre relation avec Dieu dépend de cette évaluation. Vous devez la faire. Deuxième texte dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même. Vous avez vu ça? Au lieu de dire que Dieu vous examine, non. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Oh, je pensais que c'est juste examiner si on a utilisé combien d'argent pour le bien-être de l'Église. Non. Examinez si vous êtes dans la foi qui est immatérielle, qui est spirituelle, qui est à l'intérieur. Mais on peut examiner si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Paul est en train de parler aux Corinthiens, il dit, faites cette auto-évaluation. Examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans le droit chemin. Frère, il n'y a pas un plus grand danger dans la vie que de penser qu'on ne peut pas se perdre. Celui qui croit qu'il ne peut jamais se perdre est peut-être déjà perdu. La Bible explique ça en disant que celui qui croit être debout fasse attention de tomber. Même quand on marche dans cette foi chrétienne, on est rassuré de notre salut, de notre éternité. Mais il y a cette conscience selon laquelle il est possible de se laisser séduire. Il est possible que l'on commence à laisser entrer dans nos cœurs une faiblesse. Il est possible qu'on arrête de persévérer. Alors pour ça, il est important de se auto-évaluer. Pas pour voir combien on est un piètre chrétien, on dit « Ah, j'ai prié que 15 minutes par journée, vraiment, je n'ai pas été bon. » Ce n'est pas la honte qu'on veut, mais c'est l'authenticité. C'est vérifier si on est toujours dans la bonne voie. Le bilan, donc, est une pratique biblique. Deuxièmement, le bilan, c'est avec l'esprit, pas tout seul. Avec l'esprit de Dieu, pas tout seul. Quand vous faites un bilan tout seul, ça me rappelle beaucoup les fois où, moi, quand j'étais très petit, je suis né d'une famille, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Donc, c'était super mouvementé. Quand je regarde ma mère, je me dis, comment elle a pu faire pour nous gérer, nous tous? C'est vraiment, c'est pour moi pas l'occasion de vraiment, c'est pas la journée des mères, mais, j'ai dit merci à ma mère. Merci, maman, d'avoir été une si bonne mère et d'avoir pris soin de tous ces gaillards qu'il y avait. Vous imaginez qu'on était aussi nombreux qu'elle devait préparer pour nous tous et on rentrait toujours avec des bobos. On allait soit jouer au foot, soit faire des acrobaties et je vous assure que c'était pas dans un gymnase. Non. Moi, quand j'apprenais à faire des acrobaties, c'était pas dans un gymnase, c'était sur un pneu et que vous, il arrivait des choses. Et donc, je rentrais des fois avec une petite blessure. J'ai tenté de faire de mon mieux pour ne pas donner l'impression que j'ai titube. Sinon, on va dire, qu'est-ce que tu as? Donc, je me cache avec ma petite blessure et je ne mets rien. Des fois, on avait la mauvaise habitude, si tu es blessé pendant le foot, de prendre le sable, de mettre dans la blessure. Je ne sais pas qui nous avait inventé cette technique. C'est vrai que ça arrêtait l'hémorragie, mais ça infectait la plaie. Et c'est quand la plaie commence à s'infecter que finalement, on voit que tu as un mouvement bizarre. Et quand maman va voir ou papa ou un des grands frères va dire, ah, mais tu es blessé, ça commence à s'infecter. Et on te dit, va prendre l'alcool, lave cette blessure, commence à prendre soin de toi. Si je devais laver ma blessure, combien j'étais gentil avec moi-même. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a une petite démangeaison autour de la blessure, ça fait du bien. T'as envie de te gratter, surtout quand ça commence à sécher. T'as envie un peu de te gratter ou de, et à force de gratter, la petite peau sèche, là, qui avait bloqué le saignement, poup, tu l'enlèves encore. J'étais très gentil avec ma blessure. Et à force d'être très gentil avec ma blessure, ça s'infectait davantage. Parce que je ne pressais pas assez, parce que je ne mettais pas ce qu'il fallait mettre avec la rigueur qu'il faut. Je vous assure, si vous faites votre bilan seul, vous risquez de devenir mauvais. Avec le temps, vous serez tout le temps en train de vous mettre 10 sur 10 sur des examens que vous avez vous-même composés. Vous ne pouvez pas vous évaluer seul. Parce que à vos propres yeux, vous êtes déjà bon. Si vous voulez vous évaluer, vous devez le faire avec celui qui est la norme. L'Esprit de Dieu doit parler à vos cœurs. J'aime quand la Bible dit « il vous convaincra du péché ». Une bonne évaluation, c'est un dialogue profond. Et l'avantage que le chrétien a, c'est de faire ce dialogue, ne pas avec lui-même, mais avec l'Esprit de Dieu qui habite en lui. L'Esprit convainc, éclaire et conduit dans la vérité. Il ne condamne pas. Voyez ça? Regardez bien les choses qu'il fait. Il le convainc, il éclaire et il le conduit dans la vérité. Quand vous êtes avec le Saint-Esprit, c'est un dialogue. Il réussit à te faire comprendre que ce n'est pas en vain que tout le monde dit la même chose de toi. Non, ils sont juste jaloux. Comment le monde entier, même une personne qui vient te voir il y a 5 minutes, celle-là aussi, elle est jalouse? L'esprit finit par avoir le meilleur argument, plus que ta femme et ton mari, ton patron et tes amis. Laisse-toi être convaincu par l'esprit. Mais laisse-toi aussi éclairer. Il y a des choses dans la vie, on les fait pas parce qu'on est, on a mauvais cœur ou bien on est insensible. Juste qu'on l'a pas vu comme il doit être vu. Parce qu'on n'a pas l'éclairage suffisant dans ce domaine-là. De fois, on demande qu'à comprendre. C'est pas qu'on est buté, mais on veut comprendre. Les gens nous balancent des arguments, mais on n'arrive pas toujours à voir. L'esprit, il est clair pour que tu vois ce que tu ne voyais pas. Faire ton bilan avec l'esprit, c'est faire « Oh, mais moi j'ai toujours cru. » Ça va faire ce moment d'illumination, mais il va te conduire aussi. Il te donne pas seulement la capacité de comprendre ton état actuel, mais te donne aussi la direction de là où tu dois aller. Jean chapitre 16, au verset 13. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qui l'aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité, le Consolateur, l'œuvre du Saint-Esprit de nous convaincre, de nous conduire. C'est cette œuvre-là qui nous permet de faire notre bilan. Je sais que tu es conducteur de louanges, tu es pasteur, tu es serviteur, servante de Dieu, tu es à l'église, tu es intercesseur protocole, tu es à la sécurité, aux médias. D'ailleurs, tu fais peut-être rien aussi à l'église. À toi seul, tu pourras pas le faire seul. Rien en toi ne va te demander de changer ton état actuel. Rien du tout. Tu te sens suffisamment bien. Tu n'es pas aussi mauvais que ça. Tu as 2-3 choses à changer. C'est comme ça que nous, tous les êtres humains, on pense. On pense qu'on n'est pas si mauvais que ça. On a juste 2-3 petites choses qu'on devrait changer. On est un peu négligent. Si on s'y mettait vraiment à fond, on ferait mieux. Mais on est tellement des êtres humains remplis de faiblesses et d'incapacités. On ne comprendra pas comment évaluer les choses si nous ne sommes pas aidés. Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit de Dieu opère en nous une transformation de mentalité, de renouvellement de l'intelligence. Sans lui, nous ne pouvons pas faire un bilan efficace. Alors, bilan, oui, mais avec l'esprit, pas tout seul. Troisièmement, la méthode 3R. Il existe une méthode dont ces 3R sont le moyen de pouvoir se souvenir facilement. 3R, c'est chaque R pour le verbe à conjuguer en premier. La méthode de 3R peut beaucoup vous aider à vous évaluer, à faire votre bilan. Du reste, durant toute cette semaine, on ira vraiment en détail. Personne n'aura le droit de dire « Ah, mais je vais bien me faire un bilan, mais je commence par où ?» On saura exactement par où commencer. Mais justement, en parlant des bilans, partageons déjà la méthode de 3R. R pour rendre grâce pour les traces de Dieu dans votre vie. R pour recevoir la lumière sur ce qui cloche. R pour répondre par une décision concrète, simple mais puissante. Les trois R sont quoi? Rendre grâce, recevoir la lumière, répondre à une décision concrète. Rendre, recevoir, répondre. Rendre quoi? Des actions de grâce à Dieu. Quand vous voulez faire un bilan, commencez par rendre des actions de grâce. Bénir Dieu. Reconnaître que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Même le fait de s'arrêter là pour faire un bilan, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la faveur de Dieu. Commencez par rendre des actions de grâce. Après, recevoir de la lumière. Si vous avez rendu des actions de grâce à Dieu, recevez de lui de la clarté sur votre situation. Qu'il éclaire ce qui cloche. Là où il y a des points, des zones d'ombre, on a besoin de sa lumière. Et le troisième R, c'est de répondre. Vous rendez, vous recevez et vous répondez, vous réagissez à tout ça. Répondre avec une décision concrète, simple mais puissante. Après avoir rendu grâce à Dieu et que Dieu ait donné la lumière dans votre situation, vous faites quoi maintenant? Quelle est l'action que vous allez concrètement poser pour tout changer? Ça doit être une action simple. Ne vous compliquez pas la vie. Moi, j'ai vu des gens faire des bilans et dire, de tout ce que je vis de ma vie, à partir d'aujourd'hui, je prierai chaque jour, je ferai 3 veillées par semaine, je prierai 2 heures. Non. Ça, ce sont des décisions irréalistes pour quelqu'un qui travaille en tant que conducteur de grands cars et qui va déposer de gros véhicules dans les entrepôts. Ton emploi du temps est déjà monstre. Pourquoi tu veux te mettre un joug que tu ne pourras pas respecter? Des décisions simples, mais qu'on va respecter. Je répète la méthode de 3R. Rendre des actions de grâce, recevoir la lumière de Dieu dans ce qui cloche, et puis après, répondre par une décision simple, mais puissante. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu veut qu'on rende grâce. Jacques chapitre 1, verset 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous savez, des fois, on raisonne, on réfléchit tellement sur ce qu'on doit faire qu'on ne fait rien. Et c'est pas d'hier, hein. Jacques dit, oh, à vous entendre des raisonnements, vous pensez, vous réfléchissez, théologie, ah là là là, vous réfléchissez trop. Ce que Dieu a dit, faites-le. décider, passer à la pratique. Quatrième vérité, choisir un rythme et un cadre. On veut faire un bilan et je pose les premières bases, des bases, pour que ça vous donne envie de continuer avec moi cette semaine parce qu'elle va être très riche. Vous n'avez peut-être jamais fait d'évaluation depuis que vous êtes chrétien. Je pense qu'il est temps de le faire. Et une évaluation sérieuse et profonde. Pour ça, il faut choisir un rythme et un cadre. Apprends à compter tes jours dans un lieu calme avec un carnet ouvert. Je vais le répéter. Apprends à compter tes jours dans un lieu calme, mais avec un carnet bien ouvert. Compter tes jours, c'est une expression que le psalmiste utilise. Justement, c'est dans Psaume 90, au verset 12. Psaume 90 pour nous autres, verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est une expression en langage idiomatique juif qui veut dire, dans hébreu qui signifie, apprends-nous à être des bons entendants, à faire un compte précis, à être dans les détails, à être attentif sur comment nous nous comportons au jour le jour. Et il dit, apprenons à bien compter nos jours et que nous appliquions notre cœur à la sagesse. J'insiste, mes amis, si nous voulons faire un bon bilan, il faut en choisir le rythme et le cadre. On compte quoi? On fait les rythmes de par mois, par année, par semaine. Et on le fait où? Vous pouvez pas juste faire une évaluation dans un supermarché en courant, en essayant d'acheter les choses. Non, je sais que chacun de nous a sa technique de relaxation. Il y a de ceux qui se relaxent bien en marchant dans le supermarché. Mais il faudrait que ce soit le cadre propice à l'évaluation et à la réflexion. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Encore à l'apôtre qui met ici, dans la tête des chrétiens d'Éphèse, la conscience que il faut faire attention aux jours que nous vivons parce qu'il y a un rapport à faire un jour dans la vie. Dans la manière dont vous vous conduisez, sachez que les temps ne sont pas les mêmes, ne sont pas pareils. Quel est votre rythme de bilan? C'est chaque année? Chaque fois que votre église organise un long moment de jeûne en fin d'année? Quel est votre rythme de bilan? Chaque fois que vous avez vraiment la galère et que vous n'avez plus d'argent, c'est là que vous dites, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas d'argent? Il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Mais si vous voulez évoluer en tant que chrétien, vous devez avoir un rythme et choisir un cadre approprié. Le faire un endroit, un moment et avec des moyens de s'en souvenir. Quand j'ai appris la culture, moi, dans ma foi chrétienne, j'ai intégré la culture de l'évaluation. Quand je l'ai commencé tout au début pour installer des habitudes, mon emploi du temps me les permettait. J'avais chaque semaine un jour, chaque mois 4 jours. Et je suis passé à chaque semaine 2 jours, chaque mois 4 jours. Donc, ça faisait à chaque semaine 2 jours d'évaluation. À la fin du mois, j'avais 4 jours de retraite. C'est important. Vous n'allez pas arriver là où Dieu vous a promis d'arriver si vous ne vous évaluez pas en chemin. N'attendez pas tout finir à la fin de l'année pour évaluer. Donnez-vous un rythme dans les mois, dans le trimestre. Donnez-vous une façon, un moment calme, propice et un rythme connu d'avance. Et enfin, avant de se séparer aujourd'hui, pendant que j'essaie d'installer les bases et le bien fondé ainsi que l'importance de faire un bilan de sa vie au complet en tant que chrétien, vie spirituelle, sa foi, tous les autres aspects, vous allez découvrir et je vais vous apprendre comment on fait les bilans dans chacun de ces aspects. La cinquième de choses aujourd'hui, retenez cette belle formule. Grâce plus vérité égale sécurité. Quand vous associez la grâce que vous avez reçue avec le fait de dire, de vivre la vérité, le résultat final, ça apporte la sécurité dans notre cœur. Vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité parce que vous êtes digne et que vous avez performé au maximum. Non. La sécurité de la foi chrétienne, c'est de savoir que Dieu fait grâce et que sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Mais la sécurité de la foi chrétienne ne vient pas seulement du fait qu'on sait Dieu nous fait grâce. Ce n'est pas pour qu'on exagère en disant, dans tous les cas, j'ai fait tout ce qu'il faut, Dieu nous fera grâce. Mais ça veut plutôt dire, même quand je ne peux pas, même quand je ne saurai pas, la faveur de Dieu va me rattraper. Et pour ça, je dois être sincère de dire, je n'ai pas pu, j'ai besoin d'aide. Quand on est dans la vérité et qu'on s'appuie sur la grâce, on vit sa vie chrétienne en sécurité. Cherche aussi un père pour te rendre des comptes en bienveillance. C'est-à-dire, cherche aussi quelqu'un d'autre, un frère pour un frère, une sœur pour une sœur, un pasteur pour un pasteur, un serviteur. Cherche quelqu'un d'autre à qui tu, non pas rendre compte, mais avec qui tu vas faire cet échange d'évaluation. Où en est ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Ma vie a complètement changé quand j'ai appris à parler avec des personnes qui étaient exactement dans les mêmes responsabilités, les mêmes conditions que moi. La première des choses que ça a pu avoir en moi comme effet, c'est que, oh, j'étais pas fou alors. Vous savez pas ça. Combien ça fait du bien de se rendre compte que ce qui passait dans ta tête ne se passe pas que dans ta tête. Ça se passe dans la tête d'autres personnes aussi. Et encore, bonne nouvelle, ces personnes-là en ont trouvé des solutions. Ça fait du bien de se rendre compte que là où on se trouve, c'est pas la fin. D'autres sont passés, pas arrivés, passés par là. Ils sont arrivés et ils ont dépassé ces niveaux et ils ont de la sagesse à revendre. La grâce de Dieu, quand elle est associée à l'authenticité, à la vérité, ça produit toujours une sécurité. Sache que quand tu vas t'évaluer, ce n'est pas pour savoir combien tu es digne. C'est pour découvrir combien la grâce t'a soutenu. Et pour ça, tu dois être sincère, véridique, avec toi-même. Et quelquefois, vaut mieux le faire avec quelqu'un devant toi. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns des autres. Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mes amis, l'évaluation, ce n'est pas une condamnation. L'évaluation, c'est l'appréciation de la grâce. On ne s'évalue pas pour montrer combien on n'a pas été bon. On s'évalue pour se rendre compte combien, malgré tout, Dieu nous a soutenus. Proverbe 27, 17 dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Mais plus profondément, la suite montre combien, au contact de l'un et de l'autre, on devient meilleur. Si vous n'arrivez pas à faire cette évaluation seul, appelez un frère, appelez une sœur, appelez quelqu'un d'autre en qui vous avez confiance. Parlez. Posez-lui des questions. Que penses-tu de moi? Que penses-tu que tu dois changer? Je pense ici de moi. Qu'est-ce que toi tu crois? Il va pas te dire la vérité, mais il te dira une vérité. Il va pas t'évaluer comme Dieu t'évaluera. Dans tous les cas, ce n'est qu'un homme. Il me connaîtra pas comme Dieu me connaît. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu as besoin d'écouter ce que ces hommes disent. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire dans ton ministère et pour ton lendemain? On va passer une bonne semaine. Oh, ça va être une semaine de vérité. C'est bon de suivre cette semaine seul dans la voiture ou quelque part parce que tu dois prendre des notes pour toi, parce qu'il y a des choses quand tu les entends, tu dois dire ça c'est moi tout craché. Il faut que je fasse quelque chose. Cette semaine, je veux vraiment vous pousser à l'action en commençant par une vraie réflexion intense pour pouvoir aboutir à quelque chose de grand et de transformatrice. Je crois qu'après cette semaine, les vies vont être totalement bouleversées. Je tiens aussi à vous dire merci. Vous savez que c'est devenu une habitude, une très bonne habitude entre vous et moi, de toujours être reconnaissant. Merci à vous tous, partenaires de EMCI TV, d'où que vous soyez, où que vous m'entendiez. Merci pour ce que vous faites pour cette œuvre. Merci de contribuer et de rendre cette œuvre ce qu'elle est, tout le jour. Quand j'entre chaque fois dans cet endroit, je vois combien je suis béni de travailler dans un cadre comme celui-ci et de faire avancer le royaume. Et merci de nous donner dans ce moteur de l'essence pour pouvoir accomplir cette œuvre avec autant de différences. Et à vous tous qui me suivez maintenant, d'où que vous me suiviez, que vous suivez cette vidéo coupée ou découpée en passant en audio, il est possible de commencer à le suivre intégralement n'importe où que vous puissiez être. Il suffit simplement d'aller sur notre chaîne YouTube MCI TV et de pouvoir vous abonner dessus. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur cette cloche pour que vous puissiez avoir les notifications en n'importe quel moment. Et vous sachez ce qui se passe, à quel moment et qu'est-ce qui se passe, où, comment pour cette chaîne MCI TV. Aujourd'hui, j'ai envie de le dire encore à la fin. Life Stitch, grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.